France Inter. Les admirations littéraires de
Denis Podalydès. Je voudrais commencer cette émission des admirations littéraires par un petit hommage à celui qui me les a fait découvrir, c'est-à-dire Fabrice Luchini. J'ai écouté avec, je dois dire, passion et admiration ces admirations littéraires. D'abord parce que je les partage toutes et il en parlait excellemment, avec cette candeur et cette malice qu'il caractérise, avec aussi beaucoup de profondeur, beaucoup de justesse, notamment c'est un des meilleurs acteurs aujourd'hui qui peut parler de Céline sans contourner aucune des difficultés, qui voit à la fois l'écrivain de génie et l'homme terrible qu'il devait être et qui sait que nous avons affaire à des livres, nous n'avons plus affaire à l'homme Céline. Donc voilà, je lui rends hommage et toutes ces lectures m'ont beaucoup touché parce que c'est des textes que je connaissais très bien et donc je les disais avec lui et voilà. Et mon souhait, c'est qu'un auditeur ou une auditrice ait le même plaisir éventuellement à m'entendre que moi j'en ai eu à l'écouter. Je ne pensais pas du tout commencer par Corneille, parce que quand je pensais admiration littéraire, je ne pensais pas du tout à Corneille, je ne l'imaginais pas sur un plan littéraire, et c'est une aberration en fait. En fait, je suis complètement fait de Corneille, c'est pour ça finalement que je l'ai choisi, parce que il se trouve que mon premier spectacle au sein du conservatoire, premier spectacle qui me semblait ne plus être de l'ordre de l'amateurisme, mais qui était quand même un spectacle d'élèves, et bien c'était la Place Royale de Pierre Corneille, montée par Eric Vignier, qui m'avait choisi pour le rôle de Doraste. C'était un enchantement. Et j'ai découvert ces alexandrins qui me plaisaient infiniment. Je ne savais pas tout à fait pourquoi je les trouvais aussi chantants et dansants. Et puis par la suite, premier spectacle professionnel à la sortie du conservatoire, bing, de nouveau Corneille, Sophonisbe, une tragédie même pas rejouée depuis, sinon qu'elle a peut-être été remise en scène par Brigitte Jacques, qui pendant toutes ces années 90, c'est-à-dire ma sortie de conservatoire, je suis sorti en 88, et a créé une sorte de laboratoire Corneille, une multitude de spectacles passionnants qu'elle continue à faire, et d'ailleurs je la salue. Et donc c'est avec elle que j'ai eu cette deuxième grande chance. Et puis, plus tard, un spectacle qui m'a vraiment, pour ainsi dire, révélé à moi-même, parce que c'était une période où j'envisageais même d'arrêter le métier d'acteur. Et Christian Rist m'a engagé dans La Veuve de Corneille. Il reprenait ce spectacle qui avait été créé au Théâtre de l'Athénée. Et je jouais le rôle de Célidan, qui était un rôle qui m'apportait un plaisir infini. Et je voudrais tout de suite commencer par cette petite pièce qui s'appelle La Veuve, très très peu jouée. À l'époque, j'avais à peine 30 ans, j'étais évidemment très très concerné par toutes les questions amoureuses. Je le suis toujours, mais à 62 ans, d'une toute autre manière. Et j'étais très touché par notamment les jeunes personnages cornéliens qui sont des personnages souvent qui sont pleins de candeur, d'innocence, de clarté, et en même temps qui ont une énergie décuplée, à la fois timide et audacieux. Et je me sentais parfaitement heureux, à l'aise dans ce type de personnage. Et la pièce s'ouvre sur une scène entre Philiste, qui est un amoureux timide, qui a une théorie de l'amour qu'il va expliciter dans les vers suivants. Il s'explique devant son ami. Alors souvent chez Corneille, il y a un personnage tout à fait clair, qui est la figure du héros, qui est souvent jeune, innocent, solaire, et qui aspire à monter. C'est comme le jeune Corneille était un étudiant en droit qui avait découvert le théâtre au Collège des Jésuites à Rouen. Et ces jésuites étaient extrêmement célèbres pour faire du théâtre avec les élèves. Ils essayaient de leur communiquer la grande rhétorique classique qui leur venait des anciens, et ils leur faisaient faire des exercices pratiques, à la fois des discours, de façon à ce qu'ils manient l'art oratoire à la manière des anciens latins et grecs. Et ils leur faisaient faire aussi des pièces anciennes. Et il est très probable, enfin il est même certain, que Corneille a découvert ça très jeune et a senti qu'il était aspiré par ça. Il était lui-même un de ces jeunes hommes probablement très audacieux, probablement aussi timide, et du fait qu'il éprouvait une grande fascination pour la noblesse de robe à laquelle il aspirait par son père. C'était un bourgeois de Rouen, et à cette époque-là, on pouvait accéder à la noblesse en achetant des offices. C'est ce que Corneille fera, et de façon à accéder à cette noblesse de Rome. Mais celle qu'il faisait rêver, c'était la noblesse d'épée, la noblesse héroïque, celle qui avait fondé sa noblesse sur des exploits d'ancêtres, notamment sur des exploits guerriers. Donc c'était un jeune homme absolument plein de rêves, et il arrive au théâtre finalement à Paris à travers une troupe, la troupe de Mondory, et il fait jouer quelques comédies, et c'est immédiatement un succès extraordinaire. Dès sa première pièce, Mélite, il triomphe, ce qui, je pense, le surprenait totalement. Lui qui se sentait à Paris un peu déplacé, provincial, en plus appartenant à la bourgeoisie, n'appartenant pas à la noblesse, et dès son premier spectacle, on parle de lui à la cour, et il va grimper les marches de la notoriété très rapidement, tout en étant ce jeune personnage que j'aime retrouver de pièce en pièce, qui est ce personnage à la fois naïf et puissamment énergique.
Admiration littéraire de Denis Podalydès sur France Inter.
Donc voilà, alors il y a ce personnage qui s'appelle Philiste, qui est ce jeune homme et qui débat avec cet ami qui s'appelle, l'autre ami qui s'appelle Alcidon. Et lui, Alcidon, comme souvent chez Corneille, c'est un être beaucoup plus sombre, beaucoup plus ambigu et qui ment. Et qui souvent d'ailleurs trahit même sa classe, et c'est un noble, mais qui veut en fait dérober sa maîtresse à Philiste. Sa maîtresse, c'est pour Philiste, c'est la jeune femme qu'il aime, c'est une jeune veuve, donc veut dire qu'elle a du bien et qu'elle est libre, et qu'elle pourrait faire accéder Philiste à une classe supérieure. Donc Philiste tend vers elle, mais il se sent inférieur à tout point de vue, inférieur physiquement et surtout socialement, et donc il va développer une théorie comme quoi sa timidité pourrait être en fait un moyen d'accès au cœur de la jeune femme. Donc c'est la première scène, c'est un débat sur les stratégies amoureuses. C'est Philiste qui commence souvent, les pièces de Corneille commencent presque in medias res. On suppose que la scène a déjà commencé bien avant et on entre dans la pièce par le feu de la conversation. Philiste, dis ce que tu voudras, chacun a sa méthode. Mais la tienne, pour moi, serait trop incommode. Mon cœur ne pourrait pas conserver tant de feu s'il fallait que ma bouche en témoignât si peu. Depuis près de 2 ans, tu brûles pour Clarisse, et plus ton amour croît, moins elle en a d'indices. Il semble qu'à languir, tes désirs sont contents, et que tu n'as pour but que de perdre ton temps. Quel fruit espères-tu de ta persévérance à la traiter toujours avec indifférence ? Auprès d'elle, assidue, sans lui parler d'amour, veux-tu qu'elle commence à te faire la cour ? Philiste, non, mais à dire vrai, je veux qu'elle devine. Ton espoir qui te flatte en vain se l'imagine. Clarisse, avec raison, prend pour stupidité ce ridicule effet de ta timidité. Peut-être. Mais enfin, vois-tu qu'elle me fuit ? Qu'indifférent qu'il est, mon entretien l'ennuie, que je lui sois à charge, et lorsque je la vois, qu'elle use d'artifice à s'échapper de moi ? Sans te mettre en souci quelle en sera la suite, apprends comme l'amour doit régler sa conduite. Aussitôt qu'une dame a charmé nos esprits, offrir notre service au hasard d'un mépris, et nous abandonnant à nos brusques saillies, au lieu de notre amour, lui montrer nos folies, nous attirer sur l'heure un dédain éclatant. Il n'est si maladroit qu'il n'en fit bien autant. Il faut s'en faire aimer avant qu'on se déclare. Notre submission à l'orgueil la prépare. Lui dire incontinent son pouvoir souverain, c'est mettre à sa rigueur les armes à la main. Usons, pour être aimé, d'un meilleur artifice. Sans en rien protester, rendons-lui du service. Réglons sur son humeur toutes nos actions, ajustons nos desseins à ses intentions, tant que, par la douceur d'une longue hantise, comme insensiblement elle se trouve prise. C'est par là que l'on sème aux dames des appâts qu'elles n'évitent point, ne les prévoyant pas. Leur haine envers l'amour pourrait être un prodige que le seul nom les choque et les fait. Les oblige. Et je lis un tout petit peu plus loin une autre tirade de Philiste. Crois que, de la façon dont j'ai su me conduire, mon silence n'est pas en état de me nuire. 1000 petits devoirs ont tant parlé pour moi qu'il ne m'est plus permis de douter de sa foi. Mes soupirs et les siens font un secret langage par où son cœur, au mien, à tout moment, s'engage. Des coups d'œil languissants, des sourires ajustés, des penchements de tête à demi concertés, et 1000 autres douceurs aux seuls amants connus, nous font voir chaque jour nos âmes toutes nues. Nos vœux, quoique muets, s'entendent aisément, et quand quelques baisers sont dus par compliment, etc. Voilà, j'aime beaucoup dans ses vers, la délicatesse amoureuse. Jeune, je lisais, je croyais me reconnaître tout à fait aussi dans cette attitude de philiste, et j'étais extrêmement touché de voir des craintes, des émois, des réticences que je pouvais tout à fait éprouver de les lire sous la plume d'un poète du XVIIe siècle. Ça, c'est donc la première scène qui est l'entrée en matière, dans un débat, une sorte de casuistique amoureuse, comme on disait, un échange de vues sur les stratégies amoureuses. Et ce qui me semble aussi très beau dans ce texte attribué au personnage philiste, et je dois dire que j'ai le souvenir de Jacques Bonafé, qui était extrêmement délicieux et drôle. Moi, je faisais un tout autre personnage qui arrivait bien plus tard dans la pièce, mais j'aimais écouter, notamment dans cette scène, la délicatesse et l'humour que Jacques Bonafé faisait constamment passer. C'était tout à fait palpitant, et il ne, comment dire, la poésie même du texte, c'est-à-dire que ce n'était pas une prose. Quelquefois, on joue les vers en essayant de nier que ce sont des vers. On essaie de les aplatir de façon à atteindre un naturel qui est un peu le naturel qui nous est inspiré par le cinéma ou la télévision, et qui n'est pas le naturel qu'il faut chercher à travers cette forme-là, ces alexandrins. Et donc, c'est à inventer, c'est là où Corneille demande de nous, acteurs, de reproduire les exercices de rhétorique, c'est-à-dire de savoir quand il faut accélérer, quand il faut ralentir, quand il faut changer, quand il y a presque des vers qui demandent, qui ont cette délicatesse amoureuse, quasiment, c'est même, il y a un plaisir dans la musique même de l'alexandrin. Ajustons nos desseins à ses intentions. Alors là, j'aime bien, les gens diraient que là, la liaison est affectée, diraient ajustons nos desseins à ses intentions. Alors que si on fait la petite liaison, ajustons nos desseins à ses intentions, et en essayant de bien faire la dièse, c'est de bien distinguer, voir qu'il y a deux syllabes dans sillon, à ses intentions. Les mystiches fait six pieds, donc il faut forcément faire à ses intentions. Alors si on est trop scolaire, on va faire à ses intentions. On fait du quenot, là, qui aimait parfois caricaturer comme ça l'excès de diction. C'est toujours un équilibre à trouver, en fait, la diction. C'est un équilibre extrêmement, à la fois très instinctif et très savant, entre la fraîcheur d'une situation. Là, un jeune homme parle à un autre jeune homme, parle d'amour et de ses techniques amoureuses. On imagine des jeunes gens d'aujourd'hui, ayant 17 ans, 18 ans, et qui entendent ça, je suis sûr qu'ils vont se classer soit du côté d'Alcidon, soit du côté de Philiste. Il y a une espèce de partage comme ça sur les techniques amoureuses, ou même d'ailleurs des jeunes filles pourraient disserter là-dessus. Enfin, c'est quelque chose que l'on fait quand on est très jeune, comme ça, d'échanger presque techniquement nos stratégies amoureuses. Donc j'entends cette délicatesse, non, ajustons nos desseins à ses intentions, tant que, j'aime beaucoup ce tant que, par la douceur d'une longue hantise, comme insensiblement elle se trouve prise. Et là aussi, je devrais faire la liaison. Comme insensiblement elle se trouve prise. On a l'impression que le vers s'étire infiniment pour mieux enlacer avec cette rime, avec une longue hantise, et elle se trouve prise. Que là, il y a une sorte de caresse discrète, infiniment délicate, étirée, retardée, qui est tout le jeu amoureux de Philiste, alors qu'Alcidon va répondre, d'ailleurs, suive qui le voudra, ce procédé nouveau, mon feu me déplairait caché sous ce rideau. Et là, vous avez un entrechoc de consonnes qui dit toute l'énergie contraire d'Alcidon dans la stratégie amoureuse.
Denis Podalydès lit Corneille.
Alors, mon admiration littéraire aujourd'hui est donc Pierre Corneille, dont je me plais en ce moment, d'autant plus que le temps a passé, que j'ai 60 ans passés, 62, et que relire des textes de jeunes premiers, donc évidemment, je ne peux plus jouer, me touche infiniment, me donne un, pas un effet nostalgique sur ma propre jeunesse, mais peut-être un effet sur ma jeunesse d'acteur et sur le goût, par exemple, que j'aurais à transmettre ces partitions, parce que ce sont de vraies partitions. Alors là, c'est une scène où Philiste dialogue avec celle qu'il aime et s'ingénie toujours à la fois à révéler tout en dérobant son armure et inversement d'ailleurs. Philiste. Le bonheur aujourd'hui conduisait vos visites et semblait rendre hommage à vos rares mérites. Vous avez rencontré tout ce que vous cherchiez. Oui, mais n'estimez pas qu'ainsi vous m'empêchiez de vous dire, à présent que nous faisons retraite, combien de chez Daphnis je sors mal satisfaite. Madame, toutefois, elle a fait son pouvoir, au moins en apparence, à vous bien recevoir. Ne pensez pas aussi que je me plaigne d'elle. Sa compagnie était, ce me semble, assez belle, que trop belle à mon goût et que je pense au tien. Deux filles possédaient seules ton entretien et leur orgueil, enflé par cette préférence de ce qu'elle valait, tirait pleine assurance. Ce reproche obligeant me laisse tout surpris. Avec tant de beauté et tant de bons esprits, je ne valus jamais qu'on me trouvât à dire. Avec ces beaux esprits, je n'étais qu'en martyr. Leur discours m'assassine et n'a qu'un certain jeu qui m'étourdit beaucoup et qui me plaît fort peu. Celui que nous tenions me plaisait à merveille. Tes yeux s'y plaisaient bien autant que tes oreilles. Je ne le puis nier, puisqu'en parlant de vous, sur les vôtres, mes yeux se portaient à tout coup et s'en allaient chercher sur ce visage d'ange. Mille sujets nouveaux d'éternelle louange. Oh, la subtile ruse! Oh, l'excellent détour! Sans doute une des deux te donne de l'amour. Mais tu le veux cacher, de l'amour? Moi, madame, que pour une des deux, l'amour m'entra dans l'âme, jugez-en mieux, de grâce, et croyez que mon cœur choisirait pour se rendre un plus puissant vainqueur. Tu tranches du fâcheux. Bélin des chrysolites manque donc à ton gré d'attraits et de mérite, elle dont les beautés captivent mille amants. Tout autre trouverait leur visage charmant, et j'en ferais état, si le ciel m'eût fait naître d'un malheur assez grand pour ne vous pas connaître. Mais l'honneur de vous voir, que vous me permettez, fait que je n'y remarque aucune rareté, vu que ce qui serait de soi-même admirable, à peine auprès de vous, demeure supportable. On ne m'éblouit pas à force de flatter. Revenons aux propos que tu veux éviter. Je veux savoir des deux laquelle est ta maîtresse. Ne dissimule plus, Philiste, et me confesse que Chrysolite et l'autre égale, toutes deux n'ont rien d'assez puissant pour attirer mes vœux. Si, blessé des regards de quelque beau visage, mon cœur de sa franchise avait perdu l'usage, tu serais assez fin pour bien cacher ton jeu. C'est ce qui ne se peut. L'amour est tout de feu. Il éclaire en brûlant, il se trahit soi-même, l'esprit d'un amoureux, absent de ce qu'il aime, par sa mauvaise humeur fait trop voir ce qu'il est, toujours morne, rêveur, triste, tout lui déplaît, à tout autre propos qu'à celui de sa flamme, le silence à la bouche et le chagrin en l'âme, son œil semble à regret nous donner ses regards et les jette à la fois souvent de toutes parts, qu'ainsi sa fonction confuse ou mal guidée se ramène en soi-même et ne voit qu'une idée. Mais auprès de l'objet qui possède son cœur, ses esprits ranimés reprennent leur vigueur gaie, complaisant, actif. Enfin, que veux-tu dire? Que, par ces actions que je viens de décrire, vous, de qui j'ai l'honneur chaque jour d'approcher, jugiez pour quel objet l'amour m'a su toucher. Pour faire un jugement d'une telle importance, il faudrait plus de temps. Adieu. La nuit s'avance. Te verra-t-on demain? Madame, en doutez-vous? Jamais commandements ne me furent si doux. Loin de vous, je n'ai rien qu'avec plaisir, je vois. Tout me devient fâcheux, tout s'oppose à ma joie. Un chagrin invincible accable tous mes sens. Si, comme tu le dis, dans le cœur des absents, c'est l'amour qui fait naître une telle tristesse, ce compliment n'est bon qu'auprès d'une maîtresse. Souffrez-le d'un respect qui produit chaque jour, pour un sujet si haut, les effets de l'amour. C'était un extrait de La Veuve, premier acte, une scène entre Philiste, qui est amoureux de la veuve, Clarisse, qui est une femme riche et titrée, et lui, Philiste, n'ose se déclarer devant elle. Il s'en va, donc ils ont à la fois, ce qui est merveilleux, c'est qu'ils n'ont fait échanger que des mots d'amour. On comprend très bien que l'un comme l'autre est amoureux et amoureuse de celui à qui il s'adresse et que rien n'est dit. C'est un jeu qu'on retrouvera plus tard chez Marivaux, mais qui ici est coulé dans les Alexandrins. Et la poésie amoureuse, pour moi, est d'une profondeur absolue, tout en étant d'une légèreté extraordinaire et d'une légèreté comique, bien sûr. Clarisse reste seule, un peu dépitée, une fois que Philiste, confus et heureux en même temps, s'en est allé. Clarisse toute seule. Las, il m'en dit assez, si je l'osais entendre. Et ses désirs aux miens se font assez comprendre. Mais pour nous déclarer une si belle ardeur, l'un est muet de crainte et l'autre de pudeur. Que mon rang me déplaît, que mon trop de fortune, au lieu de m'obliger, me choque et m'importune. Égal à mon Philiste, il m'offrirait ses vœux, je m'entendrais nommer le sujet de ses feux, et ses discours pourraient forcer ma modestie à l'assurer bientôt de notre sympathie. Mais le peu de rapport de nos conditions ôte le nom d'amour à ses submissions. Et, sous l'injuste loi de cette retenue, le remède me manque et mon mal continue. Il me sert en esclave, et non pas en amant, tant son respect s'oppose à mon contentement. Ah ! Que ne devient-il un peu plus téméraire, que ne s'expose-t-il au hasard de me plaire ? Amour ! Gagne à la fin ce respect ennuyeux et rend-le moins timide ou l'hôte de mes yeux. Elle comprend parfaitement la dimension sociologique de leur histoire et de l'impossibilité pour Philiste. Ce n'est pas la timidité est entièrement aussi fondée sur sa position sociale, c'est-à-dire une position d'infériorité. Lui pense qu'il n'a pas le droit et qu'il ne peut pas, et qu'elle ne l'entendrait pas. Et elle finit par souffrir de sa propre position. Il y a ainsi un rapport de bas en haut que toute la pièce, et ça revient très souvent chez Corneille, le héros n'a pas les armes sociales, mais il a un grand cœur, une grande passion et une sorte de clarté intérieure. J'aime beaucoup d'ailleurs, Bernard Dort disait, le thème de l'éblouissement chez Corneille est très important. Le personnage est toujours ébloui, il est ébloui par le monde dans lequel il entre. Quand le provincial arrive à Paris, il est ébloui, Philiste est absolument ébloui par le soleil que représente Clarisse. Et il va se faire d'acte en acte, de geste en geste, de mot en mot, et c'est le discours qui le transforme d'ailleurs. Il va se faire lui-même éblouissant. D'ébloui, il va devenir éblouissant. Et dans une autre pièce, il devient même l'incarnation même de l'éblouissement. Le héros s'éblouit lui-même jusqu'à parfois même se brûler et se perdre.
Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Peut-être que je serai vieille, répond Marquise cependant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant.
d'admiration littéraire de Denis Podalydès sur France Inter.
Pour finir cette émission, j'aimerais reparler de Corneille pour amener ce jeune poète donc, qui parle d'amour à Paris, jeune Rouennais, qui provincial, sans doute timoré, qui gravit comme ça les marches d'une gloire absolument, d'abord qui est une chose toute naissante, toute fragile, et comment ensuite son théâtre va devenir éminemment politique, comment ce goût de la passion amoureuse va aussi toucher l'entrée dans la sphère politique, et toute la carrière de Corneille. Et c'est une 35 œuvres qui sont de la dimension, à mon sens, ça a été déjà pas moi qui le dis, de Shakespeare, s'il va écrire dans des domaines assez différents. Alors comme c'est tout un théâtre en vers et en alexandrin, on a l'impression que ça unifie un peu son théâtre sous une seule forme. Pas du tout. Ces comédies prennent des figures extrêmement... la comédie de la veuve, on voit extrêmement prime sautière, n'a même rien à voir avec la comédie de la Place Royale qui intervient presque un ou deux ans plus tard, et encore moins, très très différente encore du Cid, très différent aussi de l'illusion comique et la très grande pièce très très belle et très mystérieuse dont j'aimerais... aussi parler un jour. Mais là, j'en finis sur cette pièce qui s'appelle donc « La veuve » ou « Le traître trahi » de Pierre Corneille. Elle date de 1634. Stance. Secret tyran de ma pensée, respect, amour, de qui les lois d'un juste et fâcheux contrepoids la tienne toujours balancée. Vos mouvements irrésolus ont trop de flux et de reflux. L'un m'élève et l'autre ma terre. L'un nourrit mon espoir et l'autre ma langueur. N'avez-vous point ailleurs où vous faire la guerre sans ainsi vous combattre aux dépens de mon cœur? Moi-même je fais mon supplice à force de leur obéir, mais le moyen de les haïr, ils viennent tous deux de Clarisse, ils m'en entretiennent tous deux et forment ma crainte et mes vœux pour ce bel œil qui les fait naître. Et de deux flots divers, mon esprit agité plein de glace et d'un feu qui n'oserait paraître, blâme sa retenue et sa témérité. Mon âme, dans cet esclavage, fais des vœux qu'elle n'ose offrir. J'aime seulement pour souffrir. J'ai trop et trop peu de courage. Je vois bien que je suis aimé et que l'objet qui m'a charmé vit en de pareilles contraintes. Mon silence à ces feux fait tant de trahison qu'impertinent captif de mes frivoles craintes. Pour accroître son mal, je fuis ma guérison. Elle brûle. Et par quelque signe qu'elle me découvre son cœur, je le prends pour un trait moqueur parce que je m'en trouve indigne. Espoir, adieu, c'est trop flatté. Ne crois pas que cette beauté avoua des flammes si basses et par le juste soin qu'elle a de les cacher apprend que, si Philiste est dans ses bonnes grâces, sa bouche à son esprit n'ose le reprocher. Pauvre amant, vois par son silence qu'elle t'en commande un égal et que le récit de ton mal te convaincrait d'une insolence. Quel fantasque raisonnement et qu'au milieu de mon tourment, je deviens subtil à ma peine. Pourquoi m'imaginer qu'un discours amoureux par un contraire effet change l'amour en haine et malgré mon bonheur me rende malheureux? Mais j'aperçois Clarisse. Oh Dieu, si cette belle parlait autant de moi que je m'entretiens d'elle, du moins... si sa nourrice a soin de nos amours, c'est de moi qu'à présent doit être leur discours, etc. Je m'arrête là. Voilà, le pauvre Philiste se tord de douleur entre ce vers quoi l'emmène son audace, son courage, et ce en quoi sa timidité, sa basse condition l'écrase. Et il est, comme tous les personnages cornéliens, alors Corneille jouit totalement du moment où son propre personnage est totalement coupé en deux sur la scène et hésite entre deux postures. C'est exactement ça ce qui caractérise la stance. la stance constituée de vers d'ailleurs irréguliers, il y a tantôt des alexandrins, tantôt des octosyllabes, voire des vers plus courts, six syllabes, c'est le moment où le personnage, comme il dit, balance, et ce sera Rodrigue dans le soulier de satin, percé jusqu'au fond du cœur, d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable, vengeur d'une juste querelle, je demeure immobile et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Le personnage cornélien, voilà, c'est pas qu'il hésite entre le devoir et l'amour, comme on le disait dans les dissertations d'autrefois, c'est qu'il hésite entre deux destins et entre deux postulations de lui-même, entre deux dimensions de lui-même, c'est la dimension, son désir et ce que le monde lui oppose. Mais son désir est lui-même coupé en deux, et dans le monde, il est aussi coupé en deux. Donc c'est la division, et c'est ce qu'introduit Corneille sur le théâtre français, l'intériorisation des conflits, ce qu'on n'avait pas vu dans le théâtre avant Corneille, ce que va développer aussi les auteurs après lui, Racine. Mais chez Corneille, c'est inscrit notamment dans cette forme magnifique qui peut presque se danser, cette forme si théâtrale, si poétique, si musicale d'estance.
Cette émission a été préparée par Perrine Malinge. C'est Sybille Clamins qui a effectué la prise de son. Rémi Sistiaga l'a mixée. Jean-Baptiste Audibert l'a programmée. Et elle a été réalisée par Stéphane Ronxin.
La semaine prochaine, je poursuivrai ces admirations littéraires en me penchant sur l'écrivain actuel et magnifique Laurent Mauvignier.